Exposition biblique, chapitre 10. Vous devez vivre pour la gloire de Dieu. L'histoire enregistrée comme exemple est la liberté qui édifie. Tous ceux qui croient et suivent l'évangile de l'eau et de l'esprit, deviennent-ils ceux qui atteignent la destination? Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Première épître aux Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. Du point de vue de la Bible, il apparaît à travers la parole que même parmi les personnes qui croient et suivent la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, toutes ne sont pas celles qui atteignent le même résultat jusqu'à la fin. Ce n'est pas que l'évangile de l'eau et de l'esprit lui-même soit insuffisant, mais cela est lié à la question de savoir si une personne vit par la foi au sein de cet évangile. Jésus a expliqué ce fait à travers diverses paraboles. Dans la parabole du semeur dans Matthieu 13, la même semence a été semée, mais quatre résultats différents apparaissent. Une partie de la semence tombe le long du chemin et ne parvient pas à porter du fruit, une autre tombe sur un sol pierreux et pousse pendant un certain temps avant de se dessécher, et une autre est étouffée par des épines et ne parvient pas à pousser. Cependant, il a été dit que la semence qui est tombée dans la bonne terre a porté du fruit. Cette parabole montre le fait que même si l'on entend la même parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, le résultat de la foi peut varier en fonction de l'état de cœur de celui qui reçoit cette parole. De plus, l'épître aux Hébreux souligne l'importance de garder la foi jusqu'à la fin. Hébreux chapitre 3, verset 14, dit « Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement ». Cette parole signifie que la vie de foi ne se termine pas avec son commencement, mais que la foi qui tient bon jusqu'à la fin est importante. Jésus a également dit dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Plutôt que de signifier que Dieu abandonne une personne, c'est une parole qui souligne que la foi est la vie de celui qui suit la parole du Seigneur avec la foi qui croit en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. De plus, le fait apparaît dans la Bible que même au sein de la communauté de l'Église, il peut y avoir des personnes qui confessent extérieurement la même foi, mais qui, en réalité, suivent avec des objectifs différents. Même parmi les nombreuses personnes qui suivaient Jésus, certaines ont décidé d'abandonner en cours de route. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ». En fin de compte, le cœur de cette question est que croire à l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une question de simple connaissance ou un commencement, mais une question de direction de vie et de foi continue. Une personne qui croit et suit la vérité de Dieu en vient à vivre en s'appuyant continuellement sur Dieu au sein de cette foi, et lorsqu'elle demeure dans cette foi, Dieu prend la responsabilité de cette vie jusqu'à la fin. Par conséquent, la Bible donne toujours la même exhortation à ceux qui se tiennent sur le chemin de la foi. C'est de considérer l'Évangile comme précieux, de demeurer dans la parole de cette vérité et de s'accrocher à la foi jusqu'à la fin du monde. Une personne qui vit ainsi est finalement guidée vers une vie qui atteint la destination que Dieu a préparée. Paul résume la génération de l'Exode comme suit. « Ils étaient tous sous la nuée et ont traversé la mer, ont été baptisés en Moïse et ont tous mangé le même aliment spirituel et bu le même breuvage spirituel. » En regardant leur apparence extérieure, c'était une génération qui a expérimenté tous les modèles et les ombres de l'Évangile. La mer Rouge était une préfiguration de l'eau. Le baptême, l'eau qui est sortie du rocher, était une préfiguration de Christ. Et la manne était une préfiguration du pain de vie. Néanmoins, Paul déclare très directement « Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu ». La raison est claire. C'est parce que, bien qu'il y ait eu la forme, la parole de Dieu pour vivre par la foi n'était pas dans leur cœur. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une liste d'expériences religieuses ou une série de cérémonies de rites de passage. C'est une relation de salut véritablement et personnellement liée à Christ lui-même. N'est-il pas juste de prendre les échecs comme un miroir, d'en tirer des leçons et de suivre le Seigneur? Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent, tu pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent de quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 6 à 11. Du point de vue de la Bible, il est tout à fait juste de prendre les cas des personnes qui ont échoué sur le chemin de la foi comme un miroir pour en tirer des leçons et suivre le Seigneur. Dieu a enregistré de nombreuses histoires et événements dans la Bible. Et l'un des buts parmi eux était précisément que les personnes des générations ultérieures puissent en tirer des leçons. L'apôtre Paul exprime ce fait clairement. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11, il dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Cette parole est une parole disant que les échecs et les trébuchements qui se sont produits dans l'histoire du peuple d'Israël ne sont pas de simples événements passés, mais ont été enregistrés pour devenir un avertissement et une leçon pour les personnes vivantes aujourd'hui. Même si le peuple d'Israël a expérimenté la grâce de Dieu, il a quitté Dieu à de multiples reprises et a connu de nombreux échecs à cause de la désobéissance et du désir. En mentionnant ces événements, Paul exhorte les personnes croyantes à être averties et à apprendre afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. La Bible n'enregistre pas seulement les histoires de personnes qui ont vécu par la foi et qui sont décédées. De nombreuses faiblesses et échecs, tels que l'erreur de David, le reniement de Pierre et la désobéissance d'Israël sont également enregistrés ensemble. C'est parce que la Bible n'est pas un livre destiné à glorifier les humains, mais la parole qui nous conduit à croire et à suivre la parole de Dieu. À travers les cas d'échecs, nous pouvons tirer quelques leçons importantes. Premièrement, nous en venons à apprendre le fait que, parce que n'importe qui peut être faible, nous devons toujours nous appuyer sur Dieu. Deuxièmement, nous en venons à réaliser que l'orgueil et un cœur égocentrique peuvent finalement provoquer un trébuchement sur le chemin de la foi. Troisièmement, nous en venons à savoir que le chemin qui consiste à croire en Dieu et à vivre selon la parole de Dieu est le chemin sûr. Par conséquent, une personne croyante ne doit pas considérer les échecs des autres simplement comme des objets de critique ou de jugement, mais doit les prendre comme un miroir pour se remettre en question. La Bible enseigne également exactement cette attitude. En fin de compte, recevoir des leçons à travers les cas d'échecs et suivre le Seigneur est une attitude très importante sur le chemin de la foi. Une telle posture est une attitude juste qui ne rend pas une personne orgueilleuse mais la rend humble et la conduit à s'appuyer encore plus sur Dieu. Paul énumère les péchés commis par Israël, convoiter le mal, l'idolâtrie, l'impudicité, tenter Dieu et murmurer. À la suite de cela, il déclare « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Le cœur est ceci. Ce n'est pas qu'ils ont échoué parce qu'ils manquaient d'un désir de salut. Ils ont été détruits parce qu'ils ont traité le salut à la légère. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un évangile qui dissimule le péché, mais une parole d'évangile qui met fin au péché et établit une personne droite devant Dieu. L'orgueil est l'avant-garde de l'échec. N'est-il pas juste de suivre le Seigneur avec un cœur humble? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 12 à 13. Selon les enseignements de la Bible, il est dit que l'orgueil est un cœur qui se tient avant l'échec et le trébuchement, et qu'il est juste de suivre le Seigneur avec un cœur humble. C'est parce qu'un cœur orgueilleux devant Dieu éloigne une personne de Dieu, mais l'humilité et la foi qui croient en la parole de Dieu permettent à une personne de s'approcher de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit « L'arrogance précède la ruine » et l'orgueil précède la chute. Cette parole montre que l'orgueil n'est pas un simple problème de personnalité, mais un problème spirituel qui fait finalement trébucher une personne. Si une personne devient orgueilleuse, Elle en vient à s'appuyer sur elle-même plutôt que de s'appuyer sur Dieu, et par conséquent, elle s'avance sur la mauvaise voie. À l'inverse, la Bible enseigne l'humilité comme une attitude de foi très importante. Dans 1 Épître de Pierre, chapitre 5, verset 5, il est dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu accorde la grâce et l'amour à une personne qui reconnaît sa faiblesse et s'appuie sur Dieu, plutôt qu'à une personne qui essaie de s'élever par elle-même. » Jésus lui-même a également montré un exemple d'humilité. Le chapitre 2 des Philippiens dit que bien que Jésus soit égal à Dieu, il s'est abaissé et est venu à nous en tant qu'homme, a eu les péchés du monde transférés sur lui par le baptême reçu de Jean et a même pris la punition du péché pour nous sur la croix pour devenir notre sauveur. La vie de Jésus montre que le chemin de l'humilité et de l'obéissance est le chemin qui plaît à Dieu. Suivre le Seigneur avec un cœur humble a quelques significations. Premièrement, c'est avoir un cœur qui s'appuie sur Dieu sans considérer sa propre sagesse ou sa propre capacité comme absolue. De plus, c'est avoir l'attitude d'essayer de vivre avec la parole de Dieu comme critère plutôt que d'insister obstinément uniquement sur ses propres pensées. De plus, un cœur humble et la foi apparaissent dans l'attitude avec laquelle on traite les autres. Un cœur orgueilleux essaie de s'élever et d'abaisser les autres, mais un cœur humble pousse à agir dans le sens du respect des autres et de l'édification de la communauté. En fin de compte, le chemin de la foi dont parle la Bible n'est pas le chemin de l'orgueil, mais le chemin de l'humilité. L'orgueil fait trébucher une personne, mais l'humilité permet à une personne de s'approcher de Dieu. Par conséquent, une vie consistant à suivre le Seigneur avec un cœur humble peut être considérée comme la posture de foi correcte qui plaît à Dieu. Paul offre un avertissement et un réconfort en même temps. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ce n'est pas une menace de perdre le salut, mais un avertissement contre une foi basée sur la confiance en sa propre croyance. » Et il ajoute immédiatement une promesse « Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. » Ceux qui se tiennent sur l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas ceux qui sont exemptés des épreuves de la foi, mais ceux qui ont la foi que même au milieu d'une épreuve, il y a déjà un chemin préparé. Toutes choses appartiennent au Seigneur. Par conséquent, n'est-il pas juste de les utiliser et de les manger pour le bien du Seigneur? C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 14 à 22. Selon les enseignements de la Bible, toutes choses appartiennent au Seigneur et par conséquent, on peut dire que les utiliser pour le bien et la gloire du Seigneur est la bonne attitude. C'est parce que Dieu est celui qui a créé toutes choses et tout appartient finalement à Dieu. Psaume chapitre 24, verset 1 dit ceci. « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Cette parole montre clairement le fait que tout dans le monde n'est pas la possession absolue des humains, mais appartient à Dieu. De plus, l'apôtre Paul énonce le même principe en expliquant la question de la nourriture dans le chapitre 10 de 1 Épître aux Corinthiens. Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 26, il dit « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme ». Cette parole signifie que les choses que Dieu a créées ne sont pas intrinsèquement sales ou mauvaises en elles-mêmes. Les choses que Dieu a données peuvent être mangées avec action de grâce et foi. Cependant, Paul présente un critère important en même temps. Il dit qu'une personne ne doit pas simplement penser uniquement aux critères « puis-je l'utiliser ?», mais doit penser à la gloire de Dieu et au bien des autres en même temps. Ainsi, dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 31, il exhorte « soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu ». Cette parole signifie que tout ce que nous utilisons doit finalement être utilisé dans la direction de la gloire de Dieu. C'est la bonne attitude d'utiliser ce que Dieu a donné non seulement pour ses propres désirs, mais dans une direction qui plaît à Dieu, tout en étant reconnaissant envers Dieu. De plus, Paul dit dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Cela signifie que même lorsque l'on utilise ce que Dieu a donné, on doit considérer le bien de la communauté et la foi des frères en même temps. En fin de compte, le principe dont parle la Bible est clair. Toutes choses appartiennent à Dieu, et les choses que Dieu a données peuvent être utilisées avec action de grâce. Cependant, le critère pour les utiliser ne doit pas être la simple satisfaction personnelle, mais un cœur qui pense à la gloire de Dieu, au bien de l'Évangile et au bien des autres. Cette attitude de foi est la bonne posture de vie qui plaît à Dieu. Paul lance l'avertissement le plus sévère. Fuyez l'idolâtrie. Ce problème n'est pas une simple question morale, mais une question d'union. La coupe de bénédiction est la participation au sang de Christ. Et le pain est la participation au corps de Christ. Cela correspond exactement à la structure de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le baptême de Jésus et la croix. Par le baptême que Jésus a reçu de Jean, les péchés du monde ont été transférés sur le corps de Jésus, et par le sang de la croix, le jugement du péché a été accompli, et par le Saint-Esprit, le croyant est devenu un avec le corps de Jésus-Christ. Par conséquent, celui qui est uni à Christ ne peut pas être uni aux idoles en même temps. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ne serait-il pas juste d'agir en cherchant le bien de tous? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, versets 23 à 27. Selon les enseignements de la Bible, la foi qui consiste à agir en cherchant le bien de tous peut être considérée comme la bonne attitude. C'est parce que la vie de foi est profondément liée, non pas à une vie égocentrique, mais à une vie de foi qui considère le bien des autres. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 33. « De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Cette parole montre que le critère de la vie de Paul n'était pas son propre profit, mais avait pour but d'apporter le bien et le salut des gens. De plus, dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 24, Paul dit « Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Cela montre le principe selon lequel une personne de foi doit agir dans une direction qui est utile aux autres, plutôt que de simplement faire valoir ses propres droits et sa liberté. Chercher le bien de tous ne signifie pas simplement agir pour ménager les sentiments des gens. Le bien dont parle la Bible ne signifie pas une simple satisfaction humaine, mais un bien spirituel et la bonne direction de la vie. Par conséquent, une personne de foi essaie d'agir dans une direction qui est utile aux gens et qui édifie leur foi et leur vie. Une telle attitude apparaît également dans la vie juste de Jésus. Jésus n'a pas cherché son propre confort ou ses droits en premier, mais a vécu une vie de ministère pour le salut des pécheurs. Par conséquent, Jésus a dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est devenu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » De plus, une vie qui cherche le bien de tous devient une vie qui édifie la communauté. Si chacun ne poursuit que son propre profit, la communauté connaîtra des conflits et des divisions. Mais s'ils considèrent le bien les uns des autres, la communauté s'édifie plus sainement. En fin de compte, la vie de foi dont parle la Bible est claire. Un croyant ne doit pas être quelqu'un qui vit centré uniquement sur son propre profit, mais doit vivre une vie en agissant tout en considérant le salut des autres et le bien de la communauté. Cette vie est une vie de foi qui plaît à Dieu, et on peut dire que c'est l'apparence de la révélation de la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit dans la vie réelle. Une fois de plus, l'argument « tout est permis » apparaît. La réponse de Paul est cohérente. Ce n'est pas parce que quelque chose est permis que c'est utile, et ce n'est pas parce que quelque chose est permis que cela édifie les autres. Ainsi, il dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas un évangile donné pour exhiber sa foi, mais un évangile donné pour sauver son prochain du péché. Paul est-il une personne qui veut agir tout en considérant également la conscience des autres? Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 28 à 30. En regardant la Bible, on peut dire que l'apôtre Paul était une personne qui voulait agir en considérant non seulement sa propre conscience, mais aussi la conscience des autres. C'est parce que le critère de sa vie n'était pas la simple liberté personnelle, mais le bien de la propagation de l'Évangile et la foi qui édifie la foi des autres. Paul explique directement ce problème dans 1 Épître aux Corinthiens 10. Il connaissait le fait qu'aucune nourriture n'est intrinsèquement impure ou interdite. Cependant, il n'a pas agi uniquement sur la base de la connaissance de ce fait. Il dit que l'on doit « considérer la conscience des autres ». Dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 28 à 29, Paul dit ceci « Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. » Cette parole montre un principe très important. Paul a enseigné que bien qu'il puisse n'y avoir aucun problème avec sa propre conscience, si la conscience d'une autre personne pouvait être blessée ou éprouver de la confusion, il est juste de restreindre cette action. Pour Paul, le critère important n'était pas simplement « suis-je libre ?», mais « quel impact cette action a-t-elle sur les autres ?». Par conséquent, il a dit que même s'il a ses droits et sa liberté, il peut les restreindre. Dans 1 Épître aux Corinthiens 9 également, Paul parle du même principe de foi. Il dit qu'il s'est fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Cela montre son attitude d'essayer d'agir en considérant les situations et les consciences des gens de cette époque-là. En fin de compte, la caractéristique de la vie de Paul était une attitude qui donnait la priorité à la foi sur la liberté. Il avait la connaissance et la foi, mais il essayait de l'utiliser dans une direction qui édifie la foi des autres. Par conséquent, en regardant la Bible, on peut dire que Paul était un apôtre qui voulait agir en considérant la conscience et la foi des autres ensemble, plutôt qu'une personne qui agissait simplement en se basant uniquement sur sa propre conscience. Cette attitude de foi est un principe important de la foi qui édifie la communauté et accomplit le bien de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Paul fournit des directives pratiques et spécifiques. La viande vendue au marché ne pose pas de problème. Cependant, si quelqu'un dit « c'est un sacrifice », vous ne devez pas en manger. Le critère directeur ici n'est pas la nourriture elle-même, mais une question de conscience. Ce n'est pas sa propre conscience, mais la conscience des autres. C'est parce qu'une personne qui a déjà obtenu la liberté par l'évangile de l'eau et de l'esprit n'a pas besoin de prouver cette liberté. Le but de la vie des chrétiens n'est-il pas de vivre pour la gloire de Dieu? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 31 à 33. Selon les enseignements de la Bible, on peut dire que le but ultime de la vie des chrétiens est la foi qui consiste à vivre pour la gloire de Dieu. C'est parce que la vie d'un croyant n'est pas simplement pour son propre succès ou sa satisfaction, mais il est appelé à une vie qui révèle la justice de Dieu et rend gloire à Dieu. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cette parole montre que la vie de foi ne se limite pas seulement à des activités religieuses spéciales, mais que tous les domaines de la vie quotidienne doivent être liés à Dieu. De plus, dans Éphésiens 1, il est dit que l'un des buts pour lesquels Dieu a sauvé les gens est de manifester la gloire de Dieu. Lorsque la parole de l'évangile du salut accompli par Dieu est révélée à travers la vie des gens, la gloire revient à Dieu. Vivre pour la gloire de Dieu comprend plusieurs significations. Premièrement, le centre de la vie devient Dieu et non soi-même. Deuxièmement, c'est vivre en réfléchissant si ses choix et ses actions vont dans une direction qui plaît à Dieu. Troisièmement, c'est vivre de manière à ce que le salut et la grâce de Dieu soient révélés à travers la vie de foi. Une telle vie n'est pas une vie où l'on se réprime de force, mais une direction de vie qui apparaît naturellement chez une personne qui a réalisé la grâce de Dieu. Une personne qui réalise profondément la grâce du salut accordé par Dieu en vient à vouloir vivre sa vie dans une direction qui rend gloire à Dieu. De plus, la vie de foi pour la gloire de Dieu n'apparaît pas comme une vie abstraite qui pense simplement, uniquement à Dieu, mais comme une vie qui aime les gens et édifie la communauté. Lorsqu'on pense au bien des autres et que l'on vit selon les valeurs de l'Évangile, la gloire de Dieu est révélée dans la vie. En fin de compte, le cœur de la foi dont parle la Bible est clair. La vie d'un chrétien n'est pas une vie pour soi-même, mais une vie vécue pour la gloire de Dieu. Un croyant est appelé à vivre comme un être qui se souvient de Dieu dans tous les domaines de la vie et qui révèle qui est Dieu à travers cette vie. Paul résume tout ce chapitre en une seule phrase « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. » Il rend cela concret. « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » C'est la façon dont Paul lui-même a vécu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toute chose de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit de sauvé. Première épître aux Corinthiens, 10 demandes à chacun de nous aujourd'hui. Vivez-vous pour prouver votre liberté? Ou vivez-vous pour le salut des autres, en tant que personne qui a déjà obtenu le salut du péché en croyant en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ?